BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Il est midi, bienvenue dans 60 minutes business. Bonjour Jean-Marc Daniel.
Bonjour.
Avec nous pour nous accompagner pendant toute l'émission à la une de ce jeudi. Ce sera le mot d'ordre de cet hiver. Chaque geste compte. Sobriété à tous les étages. Le gouvernement dévoile son plan. Aujourd'hui, chauffage à 19 voire 18 degrés dans les administrations. Plus de télétravail, plus de covoiturage. Un plan incitatif et non pas coercitif. 53% des Français favorable à la réforme de l'assurance chômage. C'est le baromètre Odoxa que nous dévoilons sur BFM Business. Le projet du gouvernement clive la population, nous expliquera le président Gaël Slimane. Et puis, quelle revalorisation pour les retraites du privé? C'est aujourd'hui que le conseil d'administration de l'AGIRC Arco tranche pour augmenter les pensions de 13 millions de Français. Valérie Batigne du cabinet Sapiendo nous rejoindra. Bien d'autres choses, évidemment, d'ici midi et demi, puis midi et demi, 13h. BFM Business avec vous. On répond à vos questions, on vous donne la parole à vous qui recrutez. Bienvenue à tous. Même si l'hiver est rude, on y arrivera si on se mobilise. Emmanuel Macron appelle de nouveau les Français à mettre en œuvre les mesures de sobriété énergétique sans attendre. Devant des entrepreneurs au BPI France Inno Génération, le salon qui se tient à Paris, il aura demandé de participer à cet effort.
Vous toutes et tous qui traquez à chaque instant de votre vie d'entrepreneur les coûts cachés, tout ce qu'on peut faire pour produire mieux, de la meilleure qualité, produire encore davantage mais en dépensant moins, ça faut accélérer en quelque sorte les efforts sur l'énergie. C'est ça la bonne sobriété. Et donc là-dessus, c'est accélérer sur les petits investissements en termes d'efficacité énergétique et c'est avoir quelques mécanismes très simples pour réussir collectivement à diminuer de 10% ce qu'on consomme d'ordinaire. Je vous le dis très simplement, si la nation tout entière arrive à tenir cet objectif qui est purement volontariste, il ne faut pas de décrets, de lois, de choses compliquées. Si on se mobilise tous pour le tenir, dans les pires scénarios, on passe l'hiver.
Le président s'est également engagé à convaincre les Européens de plafonner le prix du gaz, et ce, malgré les réticences allemandes d'ici le Conseil européen des 20 et 21 octobre. Comment passer l'hiver sans le gaz russe, privé d'une partie de notre parc nucléaire? On en parle depuis des mois, c'est donc aujourd'hui que 9 ministres vont venir présenter le plan de sobriété du gouvernement, tenter de réduire de 10% la consommation d'énergie, en appelant les Français à la responsabilité avec de nouvelles recommandations. Thomas Asportas, ouais. On parle bien de contraintes, on ne parle pas de contraintes, justement. Et bien d'incitations.
Effectivement, ce plan, en tout cas pour les entreprises, pas de contraintes ou d'obligations, mais à la place des recommandations et des engagements volontaires de leur part. Il y en a 15, je ne vais pas tous les donner, je vous donne les principaux. Des engagements notamment sur la température, réduire le chauffage à 19 degrés, à 16 degrés le week-end et à 8 degrés pour les bâtiments inoccupés pendant plus de 48 heures. Engagement aussi des entreprises sur l'éclairage, notamment éteindre l'éclairage intérieur des bâtiments dès qu'il n'y a plus personne. Réduire l'éclairage extérieur, notamment la publicité, et l'éteindre au plus tard à 1h du matin. Engagement aussi sur les transports, avec la préférence pour le train, sur l'avion, pour des trajets inférieurs à 4 heures ou à 6 heures pour un aller-retour dans la journée. Et enfin, les entreprises doivent aussi prévoir, quand même, c'est important, un plan pour basculer rapidement en télétravail en cas d'urgence. Ça se matérialisera quand le signal EcoWatt basculera dans le rouge, la fameuse météo de l'énergie. Pour les ménages, là aussi, pas de contraintes ou d'obligations, mais au contraire, des aides de l'État pour consommer moins d'énergie. Il va y avoir notamment une subvention pour tous les nouveaux inscrits à des services de covoiturage, une subvention de 9000 euros pour remplacer une chaudière à gaz par une pompe à chaleur, ou encore des remises des énergéticiens. EDF, Engie, Total s'engagent à réduire la facture pour les clients qui, eux, réduisent leur consommation d'énergie. En revanche, l'État, et j'en finirai avec l'État, va être mis davantage à contribution. Il y aura des contraintes pour les fonctionnaires. C'est pas une surprise. Dès le début des discussions et la préparation de ce plan, l'État avait dit qu'il porterait l'essentiel de l'effort. Et très concrètement, eh bien, ça veut dire, là aussi, chauffage à 19 degrés, mais même à 18 les jours des covoitures rouges. Réduire l'utilisation de l'eau chaude dans les bureaux, rouler à 110 km/h au lieu de 130 sur autoroute et à 100 au lieu de 110 sur voie rapide, ça représente quand même une économie carburant de 20%. Et enfin, inciter au maximum les fonctionnaires au télétravail avec une augmentation de 15% de l'indemnité forfaitaire de télétravail. J'en finis avec un chiffre. Toutes ces mesures mises bout à bout, si elles sont respectées par tout le monde, si tout le monde joue le jeu, ça représente une économie d'énergie de 3%. Vous l'avez dit Thomas, le plan de sobriété, normalement c'est une économie de 10%. Il manque 7%. dans ce plan, probablement qu'ils sont dans la réduction de la demande et de la consommation d'énergie des entreprises et des industriels. Et ça, évidemment, c'est pas un très bon signe.
Merci Thomas Asportas. 3% donc économisés, loin des 10%. 3% notamment, Jean-Marc Daniel, si tous les Français appliquent bien ces mesures et ces recommandations.
Oui, ce que je trouve intéressant, moi qui cite assez souvent la formule de Guy Mollet au moment de la crise de Suez en 1956, il disait, je commençais par faire appel au civisme et maintenant je vais faire appel au cynisme. Et donc le civisme, ça avait été un peu le discours que nous a tenu Emmanuel Macron, et le cynisme, ça avait été d'augmenter les prix et de mettre en circulation des cartes de rationnement sur la consommation d'essence. Alors j'espère qu'effectivement, on ne rentrera pas dans la phase de cynisme, même si, en partie, la phase de cynisme est là, les prix ont augmenté.
Bien sûr.
La deuxième chose que je trouve, c'est que une des caractéristiques de l'électricité par rapport à la chasse au gaspillage des années 70, c'est que l'électricité, ça ne se stocke pas. C'est-à-dire que ce qu'on aura économisé en électricité en ce moment, on ne pourra pas le reporter sur l'hiver, alors qu'au moment de la chasse au gaspillage, on nous expliquait que le pétrole qu'on économisait, on pourrait l'utiliser ensuite pour se chauffer dans les périodes les plus délicates. Enfin, la toute dernière remarque, il me soit permis de signaler que je suis vieux et donc j'ai connu, quand je suis entré dans l'administration, les gens qui circulaient dans les couloirs de la rue de Rivoli avec des thermomètres pour vérifier qu'il faisait 18 degrés. Et donc, il y avait des emplois qui avaient été créés. Et notamment, à partir de 81, il y a eu des gens qui étaient officiellement en charge de vérifier la température dans les bureaux. Je ne doute pas que les syndicats vont réclamer le rétablissement de ces emplois.
Alors, ce matin, la ministre Agnès Pannier-Runacher a affirmé qu'il n'y aurait pas de police des températures. Aujourd'hui, voilà, 19 degrés dans les bureaux. Ça reste purement de l'incitation. Aucune obligation. Est-ce que ce sera suffisant? On en parlera avec notre invité juste après le journal. C'est le Focus. Yves Marignac de Negawatt. Ne manquez pas ce soir dans Good Evening Business avec Guillaume Paul, Nicolas de Warren, le président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie à 19h15. À noter qu'une première mesure de ce plan de sobriété est déjà inscrite au journal officiel. Les publicités lumineuses seront désormais interdites entre 1h et 6h du matin, sauf dans les gares, les métros et les aéroports. Face à l'envolée des prix du gaz, Safran hésite à implanter une nouvelle usine près de Lyon. Il pourrait ne pas être forcément rationnel de choisir la France pour cette unité de production de disques de frein en carbone. C'est ce qu'affirme le président de la branche de Safran. Le projet dans lequel l'État et les collectivités s'étaient engagés à apporter 26 millions d'euros doit générer 250 emplois. Trouver de l'essence, c'est le parcours du combattant dans le nord en ce moment de la France. Et d'ailleurs, la France puise depuis hier soir dans les stocks stratégiques pour faire face. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran assure qu'il n'y a pas de pénurie dans l'immédiat. 30% des stations sont à sec ou presque dans les Hauts-de-France, 12% dans le reste de la France. Conséquence pour partie d'une grève dans les raffineries françaises. Grève pour des hausses de salaire également dans le secteur de l'énergie. Mais les tensions en approvisionnement sont si exacerbées que les renseignements surveillent de près les actions de revendication des syndicats et sont même prêts à intervenir si certains grévistes dépassent les bornes, selon les services intérieurs. Écoutez cette histoire qui est arrivée à 4 agents de RTE, le gestionnaire électrique. Ils sont en garde à vue, accusés de cybercriminalité. Mathieu Pechberti.
Des dizaines de policiers des services de renseignement ont débarqué mardi matin au domicile de 4 agents de RTE. Ils étaient encore en garde à vue hier soir au siège de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure qui leur reproche des actes de cybercriminalité. Au printemps dernier, lors d'une journée de grève, 4 salariés de RTE dans le nord de la France ont procédé à de petites coupures sur le réseau local. Des gestes qui ont déjà eu lieu par le passé mais qui n'ont jamais eu d'incidence sur l'approvisionnement. Mais aujourd'hui, les risques de pénurie d'électricité provoque une ambiance très tendue chez RTE. Jeudi dernier, lors d'une journée de grève, l'entreprise avait déjà demandé aux syndicats de relancer la production des centrales nucléaires pour éviter des tensions sur le réseau. La CGT dénonce l'intervention injustifiée des services de contre-espionnage pour des actes de revendication syndicale. Mais selon un proche de RTE, ces coupures locales en plein hiver risqueraient de créer de véritables problèmes d'approvisionnement. L'implication de la DGSI illustre en tout cas le niveau de tension extrême des pouvoirs publics.
Les députés français en prise avec un projet de texte délicat, le projet de loi sur la réforme de l'assurance chômage. Il prolonge la réforme précédente appliquée depuis 2021 qui avait donné un tour de vis aux conditions d'indemnisation. Une question, les indemnités chômage dissuadent-elles la reprise d'emploi? Selon notre baromètre Odoxa avec Abeille Assurance, le magazine Challenge et BFM Business, le projet de loi divise les Français en deux camps distincts, nous détaille Gaël Sliman, le président d'Odoxa.
La réforme de l'assurance chômage, c'est un sujet qui clive, comme on dit en sondage. C'est-à-dire que ça divise l'opinion publique. Il y a une courte majorité de Français, 53%, qui se disent favorables à cette réforme de l'assurance chômage et 47% qui y sont opposés. Mais derrière les moyennes, il y a des écarts importants. On a notamment un clivage sociologique, puisque les catégories aisées et les cadres sont majoritairement favorables à cette réforme, alors que les catégories populaires, les ouvriers et les chômeurs eux-mêmes, directement concernés, y sont opposés. Il y a aussi un clivage d'âge. Les plus de 65 ans, ils ne sont plus concernés par la question du chômage, ils ne peuvent plus l'être, et ils sont une majorité à être favorables à cette réforme, alors que les Français en âge d'être actifs, ils sont eux majoritairement opposés. On est vraiment sur un sujet de fracture de la société française.
À midi 10 sur BFM Business, le focus dans 60 minutes business. Yves Marignac de Negawatt est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Yves Marignac.
Bonjour.
On vous entend bien. Yves Marignac, on va connaître dans quelques heures le plan de sobriété du gouvernement. Le chauffage à 19 degrés dans les administrations où l'eau chaude sera coupée. Incitation au télétravail. Vitesse limitée à 110 sur autoroute pour les voitures des fonctionnaires. Résultat de 4 mois de consultation avec les collectivités, les entreprises. Est-ce que les pouvoirs publics n'y vont pas trop prudemment sans appliquer de contraintes?
Alors, l'avenir nous le dira, mais effectivement, les mesures proposées, dont il faut d'abord souligner qu'elles ont le mérite pour la première fois de porter explicitement sur l'enjeu de sobriété, et dont il faut reconnaître qu'elles couvrent quand même assez largement le spectre des acteurs concernés et des gestes de consommation à modifier. Ces mesures reposent énormément sur de l'incitation, sur de la sensibilisation. Et effectivement, le niveau de mobilisation nécessaire, on a calculé par exemple pour notre part sur la base de nos propositions qu'il faudrait que environ un ménage sur trois, un bâtiment tertiaire sur trois les applique complètement pour atteindre les 10% de baisse. Pas sûr que cette mobilisation passe. Enfin, se fasse sur la base d'une seule campagne auprès des Français et d'engagement volontaire et d'incitation des entreprises. Voilà, le gouvernement pourrait d'une part dégager plus de moyens pour accompagner, notamment dans les bâtiments tertiaires, et il pourrait aussi, c'est peut-être un élément qui manque, envoyer plus de signaux sur l'équité sociale de ces actions, c'est-à-dire sur l'intérêt ou la nécessité de faire porter l'effort prioritairement sur les actions, sur les secteurs ou les ménages les plus consommateurs, tout en protégeant au contraire les plus précaires et les plus fragiles.
Et peut-être étendre aussi les mesures. Est-ce que selon vous, il faudrait aussi arrêter l'eau chaude dans les entreprises? Est-ce qu'il faudrait réduire la vitesse à 110 km/h pour tout le monde?
Alors sur l'eau chaude, c'est une mesure sur laquelle on est assez dubitatif en réalité, parce qu'elle nous semble peu applicable et pas complètement pertinente. On aurait préféré on ne l'a pas vu pour l'instant, une action qu'on avait proposée d'extinction des ventilations et de tous les appareils inutiles lorsque ces locaux tertiaires sont inoccupés. Il nous semble que c'est plus facile à mettre en œuvre et que ça porte plus d'économie d'énergie. Voilà, en tout cas, les gestes identifiés doivent être généralisés à l'ensemble des bâtiments, et il faut pour ça accompagner les entreprises. Il y a l'idée de référence sobriété, mais il va falloir donner des moyens pour ça. Les entreprises vont pas pouvoir, comme les administrations, à moyens constants, faire en sorte que leurs salariés dédient du temps à ces modifications qui implique d'abord d'y penser et ensuite de faire des gestes pour modifier les circuits d'eau chaude, pour modifier la programmation du chauffage, etc. Et puis, il y a des sujets sur lesquels, effectivement, la réglementation nous semblerait nécessaire. Vous avez évoqué le 110 km/h. La mesure qui consiste à appeler les agents de l'État à appliquer eux-mêmes dans leurs véhicules de service une éco-conduite en espérant que ce soit exemplaire et bien sûr insuffisante. Nous, on dit depuis longtemps qu'il faut réduire cette vitesse. C'est vraiment un moyen de réduire de 15-20% les consommations de carburant. Il nous semble, quand on nous dit que c'est une mesure impopulaire, que si on explique que c'est un moyen de contribuer à réduire la mortalité routière, Yves la Marignac, pollution atmosphérique, la congestion, c'est une mesure qui peut être populaire. Et en tout cas, ça illustre le fait que le gouvernement pourrait et devrait aller plus loin sur un certain
nombre. Merci Yves Marignac de Negawa, des mesures qui vont donc dans le bon sens, un gouvernement toutefois qui reste optimiste. Si on étend ces mesures, Jean-Marc Daniel, à l'ensemble de la population, est-ce qu'on ne risque pas de voir l'activité se réduire et donc le chômage augmenter?
Il y a un risque effectivement, ne serait-ce que sur un plan purement comptable. Si vous diminuez la consommation d'énergie, vous diminuez le PIB. Alors après, la question qui se pose, c'est effectivement comment les entreprises vont s'adapter. Et il faut quand même leur faire confiance. C'est-à-dire, la vocation d'une entreprise, c'est aussi de réduire ses coûts. C'est pas de systématiquement gaspiller, faire du gâchis énergétique et tout ça. Donc, si vous augmentez le prix de l'énergie, spontanément, les entreprises s'adaptent. Ce qui me frappe dans le débat, c'est aussi le fait que on essaie de préserver au maximum les ménages pour plutôt faire porter la charge sur les entreprises. Là aussi, on retrouve les débats qu'il y avait dans les années 70. Moi, j'ai connu l'époque où la question était de savoir s'il fallait interdire les prix de Formule 1, les grands prix automobiles de Formule 1. C'était du spectacle et c'était inutile. Et à l'époque, on avait dit, mais non, les gens ont besoin de se distraire. Et là, le président de la République a répondu, pour l'instant, non, à une demande qui avait été faite par certains, de faire en sorte que les matchs de football et de rugby aient lieu l'après-midi et donc
finalement,
en soirée.
Ça a été maintenu.
Et donc, on maintient en soirée. Et donc, il y a quand même aussi un côté un peu démagogique dans la façon dont on conduit ce programme de sobriété. Et je pense qu'il va falloir vraiment prendre le taureau par les cornes, dire, écoutez, tout le monde doit faire des efforts. On l'a dit, mais il n'y a pas que les riches qui doivent faire des efforts. Tout le monde doit faire des efforts.
Midi 16 sur BFM Business, c'est l'heure de l'édito de Jean-Marc Daniel.
BFM Business. 60 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Jean-Marc, une nouvelle ligne va apparaître sur notre avis de taxe foncière, la taxe Gemapi.
Exactement, oui. Alors, peut-être que vous appartenez à une intercommunalité où elle existe déjà, mais cette taxe Gemapi, qui a été créée en 2018, se développe progressivement. Gemapi, ça veut dire gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Et donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un certain nombre de mobilisations, de financements qui sont en complément des taxes foncières et dont l'objectif est de financer l'action des collectivités locales, des intercommunalités, en l'occurrence, en faveur d'une meilleure gestion de l'eau. Alors, ça m'appelle pour moi trois remarques. La première, c'est que peut-être que la meilleure gestion de l'eau, ce serait de remettre de l'ordre dans le réseau de distribution. Je rappelle quand même que 20% de l'eau potable est perdue par l'usure, le mauvais entretien des réseaux de distribution. La deuxième chose, c'est que l'imagination fiscale est sans borne. Je suis aussi non seulement cette taxe Gemapi, qui, encore une fois, il y avait 500 intercommunalités qui l'avaient mise en place en 2021. En 2022, on est passé à 660. Les intercommunalités avaient jusqu'au 1er octobre pour se signaler auprès des préfectures. C'est pour ça qu'elle est dans l'actualité. On verra au tout début de 2023 combien on en est, mais on va être au-delà des 660. Et je suis aussi une taxe qui me passionne, c'est la taxe Cabanon. Je rappelle que quand on construit un abri de jardin dans son jardin, un abri pour ses outils et tout ça, on est obligé de payer une taxe. Et cette taxe a encore augmenté cette année de 6%. C'est-à-dire au-delà de l'inflation. C'est-à-dire qu'il y a une fiscalité locale que l'on voit mal, que l'on suit d'assez peu, qui est caractérisée par la disparition progressive de certains impôts comme la taxe d'habitation, mais par la multiplication de ces recettes de poche dans lesquelles, effectivement, c'est des recettes qui nous font la poche. Et donc, je pense que les collectivités locales devraient être surveillées d'un peu plus près. Enfin, la dernière remarque que je fais face à cette innovation permanente en termes de fiscalité. La question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on va rétablir l'impôt sur les barbes, messieurs, puisqu'il y a eu un impôt sur les barbes dans certains pays. Et la deuxième question sur les impôts, c'est quand est-ce qu'on va rétablir l'impôt sur le savon? Je rappelle qu'au 19e siècle, il y avait un grand débat au Royaume-Uni, parce que l'impôt sur le savon, ça permettait de limiter la consommation de savon qui polluait les rivières, mais ça avait comme conséquence que les gens se lavaient moins, et donc ça nuisait à l'hygiène. Et donc il y avait deux camps extrêmement virulents, les défenseurs des rivières et les défenseurs de la propreté publique. Je pense qu'on est un peu dans ce type d'organisation fiscale maintenant, un peu de simplification, de bon sens et d'honnêteté serait pas inutile.
Et moins d'imagination et pour moins la fiscalité. D'imagination. Midi 19, merci Jean-Marc Daniel. On jette un œil à la bourse. Le CAC 40 repart à la baisse.
Oui, après un début de séance qui était pourtant prometteur, là on repart en repli, moins 0,52% pour le CAC 40 qui est à 5 954 points. Du côté des autres places européennes, c'est le rouge qui domine aussi avec moins 0,4% pour l'Eurostock 50, moins 0,38% pour le DAX à Francfort. Ce retournement de tendance, on le doit quand même à un raffermissement des taux d'intérêt sur le 10 ans. Ça reste toujours très volatile. France 2,62, 2,04 pour l'Allemagne, 3,77 pour les États-Unis. Et puis on a eu une pointe à 4,5 tout à l'heure pour l'Italie, qui reste vraiment au centre des préoccupations. 4,44 pour le moment, ça s'est légèrement détendu. L'autre facteur qui a limité un petit peu la progression des indices ce matin et provoqué le retournement, c'est aussi le raidissement sur les prix du brut, avec la réduction de production de l'OPEP, bon, qui était déjà assez bien intégrée au cours, mais là on gagne encore un peu de terrain. $93 pour le Brent de mer du Nord, puis on voit que sur ce marché là en ce moment les dynamiques peuvent partir très très vite. On est à $87 pour le baril de brut de mer du Nord. Conséquence, on a un poids certain sur un certain nombre de secteurs, alors notamment ceux qui sont liés aux matières premières minières. On a ArcelorMittal qui signe la plus forte baisse du CAC, à -3,65. On est à 20,97€, puis alors une baisse impressionnante pour Eramet, notre leader du nickel, hein, -14,7%. On est à $72,50. Là, une forte consolidation. Sinon, à signaler les valeurs de croissance, effectivement, avec ce raidissement sur l'obligataire, on a des baisses pour Capgemini, par exemple, qui perd 1,8% à $169,70. On a également les valeurs financières qui sont mal orientées. Crédit Agricole, -0,2 à $8,50. AXA, -1,11 à $23,20. Et puis, à signaler une belle hausse pour Unibail Rodamco Westfield, la plus forte hausse depuis le début de la séance, +1,6%. On est à $42,35. Puis, des valeurs un peu plus défensives sont regardées, la Carrefour notamment, +1,35. On est à €14,24. Du côté des devises, l'euro-dollar passe sous les 99 cents. On est à 98,83 en ce moment. Du côté des crypto-monnaies, on a tendance à stagner un petit peu, même si le Bitcoin s'est quand même bien repris au-delà des $20,000, 20,122 en ce moment. L'Ether stagne du côté des 1,357. Le CAC donc en baisse, -0,52. On est à 5,954 points, Thomas.
Merci Antoine Lin et Gaudry, midi 22 sur BFM Business. Est-ce que les retraites du privé seront revalorisées en fonction de l'inflation? On en parle avec notre invité dans un instant, Valérie Batigne du cabinet Sapiendo. À tout de suite.
BFM Business, 60 minutes business, l'invité.
Midi 24, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur BFM Business. Jusqu'à où le conseil d'administration de la GERC ARCO revalorisera les retraites du privé? C'est aujourd'hui qu'il se réunit pour cette hausse attendue à partir du 1er novembre. Pour en parler avec nous, Valérie Batigne, bonjour.
Bonjour Thomas.
Bonjour, présidente fondatrice du cabinet Sapiendo. On parle aujourd'hui d'une revalorisation qui serait presque du niveau de l'inflation.
C'est ça. Donc le taux qui est attendu, hein, qui devrait être confirmé à 14h par le conseil d'administration, c'est un taux de 5,1. C'est un taux anticipé, il peut être différent, mais en fait c'est le taux qui est attendu. Donc on peut dire pourquoi 5,1, quels sont les principes?
Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est une revalorisation coup de pouce, parce qu'on est dans un contexte de crise du pouvoir d'achat, ou est-ce que c'est une formalité finalement d'indexer cette pension, la revalorisation des pensions sur l'inflation?
Alors ce n'est jamais une formalité. Il y a trois principes qui guident en fait la fixation de l'augmentation de ces retraites, donc de toutes les retraites complémentaires des salariés du secteur privé. Le principe numéro un, c'est que ça doit suivre l'inflation prévisionnelle de l'année en cours, c'est-à-dire de 2022. Mais il y a un bémol, c'est qu'elle ne doit pas être quand même supérieure à l'augmentation des salaires. On se dit que les retraites ne doivent pas augmenter plus vite que les salaires. Et il y a un troisième paramètre, c'est que le conseil d'administration a une marge de liberté, qu'on appelle facteur de soutenabilité, de 0,2%, en plus ou en moins par rapport à ces deux paramètres.
Et les tractations sont intenses pour justement cette courte marge de manœuvre. Certains syndicats plaident notamment pour un assouplissement des règles. On reste en dessous de l'inflation qui était à 5,6 en septembre, 5,3 sur l'année, 5,1%. Ils sont perdants. Les retraités, combien sont concernés?
Alors on parle de 13 millions de retraités du secteur privé, donc c'est les salariés du secteur privé. Donc ça veut dire en gros que ne sont pas concernés les fonctionnaires, tous les indépendants, les professions libérales, voilà. Donc c'est sûr que l'inflation, comme vous faites remarquer, elle sera supérieure, mais ce qui est important, c'est que le plafond de l'augmentation, comme je l'ai rappelé, c'est l'augmentation des salaires, qui, elle, en 2022, on parle en prévisionnel, devrait être de 4,8, voilà. Donc pourquoi 5,1, on pense, c'est 4,8, donc c'est le plafond, auquel on ajouterait 0,1, qui est le rattrapage de l'inflation par rapport à 2021, parce que là, on est début octobre et on parle d'un prévisionnel 2022. Donc, il y a toujours des effets de rattrapage entre la réalité, ce qui avait été anticipé, voilà. Et on ajouterait, c'est un coup de pouce, les 0,2 de facteurs de soutenabilité qui sont généralement, qui viennent diminuer l'augmentation et qui là viendrait l'augmenter.
Et la valeur du point de retraite, est-ce qu'elle va être modifiée aussi au 1er novembre ?
Ah oui, donc c'est ça. C'est-à-dire, quand on parle d'augmentation, c'est exactement ça. Quand on parle d'augmentation des retraites, on parle d'augmentation de la valeur du point de service. Voilà, donc là, il était à 1,28, 1,28 €, et il va être augmenté jusqu'à 1,32, 1,33. On va voir aujourd'hui, à 14h, on le saura définitivement.
Est-ce qu'on ne devrait pas imaginer que le conseil d'administration pourrait se permettre d'être plus généreux, au vu que le régime a été excédentaire l'an dernier ? On parle de 900 millions d'euros.
Alors, il y a le court terme et le long terme. Mais il y a autre chose aussi que le conseil d'administration va dire, et qui est très important, même s'il est moins regardé, c'est le coût, la valeur du coût d'acquisition du point. Parce que la valeur du point, elle concerne 13 millions de retraités. Mais le coût d'acquisition du point, il concerne le double de personnes, il concerne 25 millions de personnes, c'est tous les salariés qui cotisent. Combien vont-ils payer plus cher leur point retraite ? Ça, c'est fondamental. Ça passe souvent au second plan. Ça devrait quand même être annoncé à l'issue du même conseil d'administration. C'est fondamental parce qu'une retraite à la fin, c'est quoi ? C'est un nombre de points multiplié par la valeur du point. Donc, on s'interroge tous sur la valeur du point parce que l'effet est immédiat. Ce qui le touche, c'est immédiat. Mais le nombre de points que j'acquiers, ça nous concerne tous au fil de l'eau. Hein, on gagne tous un salaire. Avec ce salaire, on paie des cotisations. Et avec ces cotisations, on achète des points. Donc, plus la valeur du point augmente, moins on achète de points à salaire et cotisation égale. Donc, c'est très important de regarder l'évolution de ce coût d'acquisition du point.
Et justement, vous qui regardez ce régime un peu en expert, est-ce que... Alors, vous savez, il y a Alfred Sauvy qui disait que le vrai danger, c'est le seuil d'aîné. C'est quand il y a un cotisant pour un retraité, hein, puisque aîné portait son père sur ses épaules quand il sortait de Troyes. Est-ce que ce 25 millions pour 13 millions, c'est plutôt favorable par rapport à l'ensemble du...
ce qu'il faut regarder... Moi, je dis, il y a un paramètre qui est simple, c'est la démographie.
Oui, voilà, exactement.
Le choc démographique.
Comment vous anticipez l'évolution démographique ?
Alors, l'évolution démographique, ça rejoint votre question sur le court terme. C'est que d'ici 2040, donc dans 18 ans, pour le même nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans, il y aura 33% de plus de personnes de plus de 65 ans. C'est juste énorme.
Ils seront c'est pas 33% tous forcément. Il y a les fonctionnaires qui sont absorbent une partie. Est-ce que le régime lui-même, il est plus menacé que les autres par l'évolution démographique ?
C'est un ensemble. Le choc démographique, il est partout. Il est partout, plus ou moins partout, mais il est partout. 33%, c'est énorme. Et donc, les caisses, elles doivent vraiment gérer ça dans le long terme. Donc, je dirais, il faut regarder l'excédent d'une année considérée, mais il faut voir dans 18 ans, qu'est-ce que ça va faire dans 20 ans ? Qu'est-ce que ça va faire ? Parce que c'est ça qui concerne tous les actifs qui sont en train de cotiser et quand un jour ils auront le droit de partir à la retraite, vont se dire, bon, mais moi, combien j'aurai ? Et donc, c'est cet équilibre entre tout le stock de droits qui est en train d'être acquis par les cotisants et ce que je donne aujourd'hui aux retraités, voilà, c'est ça, j'allais dire, le job du conseil d'administration, et ce n'est pas une mince affaire.
Et ces prévisions démographiques, c'est ce qui fait dire au gouvernement qu'il faut arriver à l'équilibre du régime des retraites. D'ailleurs, ce matin, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, expliquait que pas un euro des cotisations retraite ne servira à financer autre chose que les retraites, mais si on arrive à équilibrer le système des retraites, on diminue le déficit public et ça nous donne des marges de manœuvre pour agir plus fortement ailleurs. Merci beaucoup, Valérie Batigne, présidente et fondatrice du cabinet Inès Sapiendo d'être venu dans 60 minutes business. Il est midi 31 dans un instant. Le rappel des titres et puis BFM Business avec vous. Lorraine Goumeau nous rejoint dans un instant.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, c'est le plan de sobriété énergétique du gouvernement. Elisabeth Borne le présente cet après-midi. Objectif, réduire de 10% la consommation d'énergie du pays et éviter les coupures de gaz et d'électricité. Parmi les mesures qui vont être annoncées, le recours au télétravail, au covoiturage ou encore des coupures d'eau chaude dans les administrations. Et si ces mesures sont respectées, la France passera l'hiver en matière d'énergie, même dans les pires scénarios. Et les prix vont revenir à des niveaux plus acceptables. Déclaration d'Emmanuel Macron à la mi-journée lors d'un événement organisé par BPI France. L'alerte de Thierry Breton sur les conséquences de la flambée des prix de l'énergie pour les industriels. Certains d'entre eux sont très affectés par l'inflation. Le commissaire européen au marché intérieur appelle donc les États à se coordonner pour les soutenir. On l'écoute, il était l'invité de BFM TV et RMC ce matin.
J'appelle chacun des États à faire ce qu'il faut pour aider les secteurs industriels. On a beaucoup de secteurs industriels qui sont très dépendants de l'énergie. On peut penser à l'acier, on peut penser au zinc, on peut penser au papier, on peut penser à la chimie, on peut penser au verre, et donc qui sont très affectés. Et c'est très important parce que, évidemment, ça affaiblit notre compétitivité. Et au fond, certaines de ces entreprises vont peut-être être tentées eh bien, d'aller produire non plus en Europe, mais ailleurs. Donc depuis des mois, nous alertons sur ce point les États membres. Ils réagissent, c'est bien. Mais il faut le faire, évidemment, et c'est votre point, de façon coordonnée. Car le marché intérieur, c'est ce dont je suis responsable, eh bien, il fonctionne parce que nous avons des règles à peu près similaires partout.
Après la renationalisation d'EDF lancée hier, la filiale italienne de l'énergéticien serait-elle à vendre? C'est en tout cas ce que croit savoir Reuters. EDF pourrait décider de céder Edison, qui produit et distribue de l'électricité, une opération qui pourrait se chiffrer à 8 milliards d'euros. Toujours dans l'actualité, entreprise, un an et demi après s'être installée en Espagne, la SNCF lance une deuxième ligne dans le pays. Il s'agit d'une ligne low-cost Ouigo entre Madrid et Valence, avec 5 allers-retours par jour. C'est l'une des plus fréquentée du réseau ferroviaire espagnol. En Allemagne, les commandes à l'industrie chutent plus que prévu en août. Elles reculent de 2,4% sur un mois, contre une baisse de 0,7% initialement anticipée. Après S&P, l'agence Fitch abaisse la perspective de la note du Royaume-Uni. Elle passe de stable à négative pour l'agence de notation. Les importantes baisses d'impôts annoncées par le gouvernement britannique pourraient entraîner une hausse significative des déficits budgétaires à moyen terme. Et puis c'est la naissance aujourd'hui de la communauté politique européenne, la CPE, traduction concrète d'une idée lancée par Emmanuel Macron en mai. Elle rassemble les 27 membres de l'Union européenne ainsi que 17 pays limitrophes, tous se réunissent à Prague pour échanger sur l'énergie, le climat ou encore la sécurité. On jette un coup d'œil au CAC à la mi-journée. Il évolue toujours dans le rouge, moins 0,4-0,5%, 5 956 points, Thomas.
Merci Stéphanie Collo. Prochain point sur l'actualité avec vous à 15h. Tout de suite, on répond à vos questions dans BFM Business avec vous.
Votre rendez-vous avec Bruno.fr, le spécialiste de tous les équipements de travail pour les professionnels. Bruno, à vos côtés pour réussir.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM Business avec vous et avec Lorraine Goumeau. Bonjour Lorraine.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Aujourd'hui, on parle du dévouement d'une partie des salariés français.
Oui, et on va faire ça avec Delphine Cochet. Bonjour Delphine.
Bonjour Lorraine. Bonjour
vous êtes Thomas. La cofondatrice de Ma Bonne Fée. Dévouement parce qu'on va parler des salariés aidants. C'est une journée nationale, vous savez. On estime que la moitié des salariés français sont concernés et qu'un actif sur quatre sera aidant d'ici 2030. C'est correct les chiffres que je viens de donner ?
Surtout le chiffre de 25% des effectifs des entreprises qui seront aidants en 2030. Et puis ça va évidemment exploser. Donc c'est un sujet qui concerne toutes les entreprises.
Donc ils prennent en charge un parent, un proche de sa famille malade, c'est ça?
Exactement. Le terme d'aidant, proche aidant, aidant familial, c'est le fait d'accompagner une personne qui est fragilisée par la maladie, le handicap ou le grand âge, et c'est le fait d'apporter une aide qui est non professionnelle, qui va prendre plusieurs formes, que ce soit administratif, logistique, soutien psychologique beaucoup aussi, communication, etc.
Alors vous êtes concerné, eh ben, n'hésitez pas à rebondir, on reviendra sur ce sujet parce qu'on va s'en emparer, parce qu'il faut l'évangéliser. On va d'abord se mettre du point de vue du RH, DRH, du patron, de la patronne, avec cette réaction que je vous donne tout de go. En tant que dirigeant, je ne comprends pas pourquoi l'entreprise devrait s'immiscer dans la vie privée de ses équipes. Qu'est-ce qu'on répond à ça, Delphine ?
Alors, je réponds plein de choses. La première chose à laquelle je vais répondre, c'est que aujourd'hui, en tout cas, je m'adresse à ce dirigeant, c'est un sujet qui est pris quand même à bras-le-corps par de plus en plus d'entreprises. Je serai cet après-midi sur des tables rondes qui sont organisées au siège du CESE par Lacroix et Bayard Impact sur aider les aidants, la responsabilité des entreprises. Donc c'est une responsabilité et puis c'est même une obligation. Une des obligations de l'entreprise à partir du moment où vous avez un salarié, c'est de gérer notamment les risques psychosociaux. Or, on le sait, les aidants dans la conciliation vie professionnelle, vie personnelle sont enclins à être fragilisés par cette situation et donc présentent plus de risques de stress, de burn-out, etc.
Et si on devait résumer un guide des bonnes pratiques pour quelqu'un qui travaillerait justement dans l'équipérage d'une entreprise qui aimerait inclure dans sa politique des actions pour soutenir les salariés aidants, par où est-ce qu'il peut commencer? Comment est-ce qu'il peut identifier les personnes justement à accompagner?
Alors, il y a plusieurs étapes. La première, évidemment, je vous dirais, c'est de créer un cadre propice au dialogue. Donc déjà d'en parler, de créer des actions. Vous pouvez aussi avoir délibérément une politique qui est souple. Dans les actions les plus faciles, c'est une politique souple dans la gestion du temps de travail, du télétravail, quand c'est possible. Tout ce qui va faciliter potentiellement le contexte, en tout cas personnel et professionnel des aidants. Et puis vous avez aussi énormément d'actions de communication à porter ces projets, d'informer sur ce qui existe, les ressources internes de l'entreprise, mais aussi les organismes de prévoyance de santé, alerter sur ces ressources-là.
On va venir sur les cas du point de vue salarié, mais encore un mot d'un dispositif qu'on peut mettre en place. Nous aimerions mettre en place le don de jours de repos pour nos salariés aidants dans notre entreprise. Comment le formaliser et l'organiser, le don de jours de repos?
Alors, c'est pas encore très connu, c'est très récent.
Mais ça existe, vous ça confirmez, existe. C'est écrit dans la loi.
Il y a la loi Matisse qui était au départ qui est d'un cas réel où en fait il y a eu une solidarité de collègues qui ont offert des jours à un salarié qui avait son enfant Matisse malade. Ça a été élargi à tous les proches aidants. Et donc vous pouvez très facilement déclencher en tout cas la possibilité de don de jours avec un système de communication, de collecte, et puis d'attribution. Ça peut être, alors c'est important, ça peut être pour un parent justement d'un enfant gravement malade, ça peut être pour un proche aidant qui est éligible au congé de proche aidant. Et ces dons, ça peut être des jours de RTT, ça peut être des jours de récup, ça peut être des jours de compte épargne temps ou des jours de congé à partir de la cinquième semaine. C'est aussi, en mettant en place ce système, c'est aussi un bon moment quand il est sollicité par un salarié qui en fait la demande. C'est un bon moment pour aiguiller sur toutes les ressources qui existent et pour l'accompagner dans sa démarche.
Et pour montrer les actions possibles, on a, Delphine, des témoignages d'auditeurs qui nous ont écrit justement sur ce sujet des salariés aidants. L'un d'entre eux nous explique que son père a été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer. La situation ne s'arrange pas. Il a peur aujourd'hui d'en parler au travail. Il n'ose pas. Il a peur de mettre en risque son évolution professionnelle. Ouais. Est-ce que ça peut le pénaliser? Et comment est-ce qu'il pourrait se confier?
Alors nous, justement, typiquement, chez Ma Bonne Fée, les accompagnements qu'on fait, on est un tiers de confiance et on voit ces situations qui sont classiques, entre guillemets, puisque seulement 20% des aidants en parlent dans le milieu professionnel. Donc la première chose, moi, ma recommandation, c'est toujours la communication, c'est d'en parler, parce que quoi qu'il en soit, il y a un moment où vous ne pourrez pas le cacher. L'absentéisme, le stress, l'organisation personnelle vont vous rattraper et donc la première étape, c'est d'en parler. Effectivement, beaucoup ont peur pour leur carrière, beaucoup la mettre en parenthèse. On a entendu récemment Guillouard, de l'ancienne DG de la RATP, qui a justement démissionné pour s'occuper de ses parents. Donc c'est aussi des choix de vie dans lesquels vous avez ensuite des ressources pour vous accompagner.
Ça peut être une discrimination d'être pénalisé dans son évolution professionnelle si on a confié avoir un parent dont on est aidant.
Alors c'est évidemment une discrimination, après c'est toujours très compliqué à démontrer, mais il y a des choses que l'employeur ne peut pas refuser. Et là vous pouvez aller au prud'homme. Par exemple, un congé de proche aidant alors pour lequel il faut faire quand même des démarches, sur lesquelles nous aussi on voit l'accompagnement qui est nécessaire. À partir du moment où vous avez monté un dossier à la maison départementale, la MDPH, et que ça a été prouvé que votre aidé a un taux d'incapacité supérieur à 80%, vous avez droit à ce congé proche aidant. On ne peut pas le décaler, on ne peut pas le refuser. Donc, vous pouvez, de certaines manières, faire appel au prud'homme.
Il y aurait 1000 autres questions, et on vous réinvitera, Delphine, évidemment, pour parler des cas particuliers et ceux sur lesquels on peut généraliser. Cette dernière question de parents. Après 8 ans d'errance, nous savons aujourd'hui que notre fils est atteint de troubles autistiques. Je viens de verbaliser, c'est la maman qui nous écrit, que j'étais aidante, et je me rends compte que je peux certainement bénéficier d'accompagnement spécifique auprès de mon entreprise. Vers qui je me tourne? En une minute, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Delphine?
En une minute, première chose, il faut savoir que les aidants, c'est pas seulement le grand âge, c'est aussi beaucoup de salariés qui sont aidants de leurs enfants, qui est aussi, je fais une parenthèse, là on parle de troubles autistiques, mais il y a aussi tous les troubles 10 dont on entend parler énormément, les troubles TDA, les troubles de l'hyperactivité, tout ça peuvent représenter des handicaps et transforment les parents salariés en aidants. Première chose. Ensuite, vous avez énormément de ressources qui existent, que ce soit public, que ce soit associative, avec nos proches, Ma Boussole Aidant, le collectif Je t'aide, etc. Et puis surtout, encore une fois, contactez vos contrats prévoyance mutuelle. Il y a énormément d'aide et d'accompagnement qu'on ne connaît pas. Et puis, renseignez-vous si votre entreprise a mis en place aussi des dispositifs spécifiques.
Et spécifiquement, dans l'entreprise, juridiquement, vers quelle personne je dois me tourner en premier pour verbaliser cette situation? Est-ce que c'est mon manager? Est-ce que c'est mon DRH? Est-ce que c'est mon big boss, pardon?
C'est tout ça. C'est, en général, on commence quand même par le manager pour cette flexibilité, le télétravail, l'arrangement des horaires, et puis ensuite médecine du travail, RH, et voir ensuite n'importe quelle autre source ou une personne qui serait dans la même situation dans l'entreprise.
Voilà, on a répondu à quelques questions.
Quelques questions, mais si vous en avez d'autres, vous pouvez aussi nous écrire à BFM Business. On vous répondra, on vous aiguillera justement sur toutes les démarches, sur les problématiques que vous pourriez rencontrer. Merci beaucoup, Delphine Merci Cochet, cofondatrice de Ma Bonne Fée, d'être venue dans 60 minutes business, dans BFM Business avec vous. Il est midi 44, on marque une courte pause et après, c'est l'heure de recruter, Lorraine.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Midi 46 sur BFM Business, c'est l'heure de recruter comme tous les jours. C'est parti, Lorraine.
On invite un spécialiste du bureau clé en main. Il s'agit de Denis Granger. Bonjour Denis.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être avec nous. Vous êtes le président du groupe M2DG. Avec vous, on arrive dans des bureaux rénovés, aménagés et avec du service clic-clac comme ça.
Exactement.
Et vous faites
on
ça.
On appelle ça du bureau boutique.
Du bureau boutique. Vous faites ça entre Paris, Lyon et Miami depuis 2016. Donc vous êtes pré-Covid. Résumez-nous les évolutions de votre boulot depuis la crise sanitaire.
Alors, ce qui était intéressant et même passionnant, c'est de voir que la crise a été un accélérateur chez nous. Ça nous a permis d'attirer des publics un peu plus larges. On travaille beaucoup avec des structures innovantes et on est aujourd'hui, on a beaucoup de grands comptes qui nous appellent pour changer leur méthodologie de travail.
Alors que plusieurs avaient annoncé la mort de l'immobilier de bureau.
Exactement. Donc, je me souviens encore pendant le Covid, beaucoup de gens m'ont dit c'est fini, tout télétravail, ton job, c'est fini. Et au contraire, on a fait un gros jump parce qu'on designait déjà les bureaux autrement.
Qu'est-ce que c'est votre métier? Vous êtes architecte, vous êtes designer, vous êtes office manager. Comment on résume tout ce qu'il y a comme fonction dans votre équipe?
On est designer d'espace, effectivement, et de service. Donc, on a cette double casquette. On doit assurer, justement, un espace qui correspond aux besoins d'aujourd'hui. Donc, on doit faire évoluer cet espace dans le temps et en fonction des entreprises. Et on doit y pluguer les services nécessaires adaptés aux entreprises qui nous contactent.
Des services qui ont changé, des services qui sont nouveaux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend de son bureau quand on s'y rend?
Aujourd'hui, on a des services complètement différents selon les entreprises. Mais effectivement, déjà le chauffage, ils ont de la chance parce que nous, on a négocié des contrats groupes. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas eu d'augmentation pour nos clients. Donc c'est un vrai point. Mais au-delà de ça, ils nous demandent beaucoup des problématiques sur la RSE, par exemple, de les accompagner avec des prestataires de confiance sur la RSE. Mm-hmm. Mais pas que. Après, bien sûr, la préoccupation numéro un, c'est le café. Un bon café.
Un bon café et un jump qui vous permet de recruter aujourd'hui à moyen terme. Vous avez une cinquantaine de postes ouverts.
Exactement, nous avons une dizaine là d'ici quelques mois et pour la fin de l'année, l'année prochaine, pardon, 2023, nous allons doubler ces effectifs.
Alors listez-nous quelques-uns des postes à pourvoir chez vous et peut-être dites-nous les plus compliqués à trouver dans le contexte.
Alors, on a des postes extrêmement variés parce que, comme vous l'avez dit, on est un acteur du service et du design de ce qu'on appelle la workplace. Et donc, on cherche aussi bien des techniciens, des architectes. Aujourd'hui, on cherche même des responsables design and build, mais aussi des postes beaucoup plus de réflexion, de stratège, puisqu'on cherche des CFO ou des DG. Voilà, notamment sur les filiales.
On va se faire disputer par nos auditeurs qui surveillent beaucoup notre utilisation de l'anglais. Mais vous excuser, Denis, parce que vous êtes notamment en opération du côté de Miami. Donc on voit que votre logique d'entreprise, elle est déjà internationale. Alors parlez-nous de vos projets et de vos activités en Floride.
Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on exporte un savoir-faire à la française. Donc avec ce qu'on vient de dire, le boutique bureau, qui n'existe pas pas vraiment à Miami. On a beaucoup de coworkers, mais pas de, de bureau qui est designé et adapté avec le service pour le, l'utilisateur. Donc aujourd'hui, on a lancé notre opération cette année et on est déjà 100% plein et on a une dizaine d'acquisitions là qui sont en train de se designer et avec effectivement des recrutements aussi. On a même des VIE qu'on va envoyer, donc on est preneur de gens qui souhaitent vivre une expérience américaine, mais sinon on recrute aussi au local.
On ne peut pas lister tous les postes que vous avez à pourvoir, mais je vous en donne quelques-uns. Architecte, assistant achat et logistique, chargé d'affaires international, mais aussi des responsables pour vos réseaux sociaux et des acheteurs, des directeurs design, fabrication, des hospitality managers et même des juristes d'entreprise. Toutes ces offres à retrouver sur votre site.
Oui, comment est-ce qu'on postule, Lorraine, à M2DG?
Ça se passe sur m2dg.org, et puis à l'adresse qui s'affiche à l'écran pour ceux qui nous regardent en direct ou en replay, c'est rh@m2dg.org. Une cinquantaine de postes, vous l'avez entendu, des VIE, et puis aussi pour les plus jeunes, des stages et des alternances, oui. Ce qui n'est pas rien pour rejoindre une entreprise.
On aime beaucoup la formation, on a accompagné justement les jeunes. La formation est un volet extrêmement important, vu que c'est des nouveaux métiers, donc on accompagne ces jeunes dans cette formation.
M2DG, les bureaux, clé en main, et son président Denis Granger, merci,
merci
d'être venu dans BFM Business avec vous. Midi 51, je vous rappelle les modalités pour nous écrire, nous poser vos questions, nous faire part de vos offres d'embauche. D'abord, l'adresse mail avec vous, @bfmbusiness.fr, le hashtag sur les réseaux sociaux BFM Business avec vous, bfmbusiness.com. Bien sûr, vous pouvez nous écrire aussi sur Facebook pour réagir, tout ça, c'est gratuit. Un deuxième recruteur nous a rejoint sur le plateau, Lorraine.
Oui, il s'agit d'Emmanuel Ladan. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Carbios. On vous a déjà reçu moult fois sur notre chaîne. Avec vous, on va parler recrutement pour votre entreprise qui est au carrefour de l'innovation, de l'industrie, de la tech, mais surtout le mot-clé, c'est plastique. Alors, pitchez-nous Carbios en une minute.
Alors, Carbios, nous sommes les seuls au monde à avoir développé une technologie biologique de recyclage des plastiques. Et donc, on donne une fin de vie au plastique et aussi au textile. Parce que les fibres polyester dans les vêtements, 50% de l'habillement, ce sont aussi les plastiques que nous savons recycler biologiquement.
Emmanuel regarde de très près la texture de mon pull pour voir
s'il est recyclable ou pas. Pour essayer de deviner s'il le fabrique.
Non, on va le dire très médiatiquement avec vous, c'est 100% des déchets qui deviennent recyclables. Et ce pari, il est réussi technologiquement grâce à quoi ?
Absolument. Donc, ce sont des enzymes que nous avons développées qui dépolymérisent les plastiques et nous permettent de refaire du plastique vierge quasiment à l'infini. Les grandes marques se sont associées à Carbios, L'Oréal, Schweppes, Orangina, Pepsi-Cola, Nestlé. Et puis, plus récemment, des grandes marques du textile, Patagonia, Salomon, On Running, Puma s'associent à Carbios pour trouver une vraie circularité au plastique et donner une fin de vie circulaire aux déchets qu'ils produisent.
Donc des organismes microscopiques qui vont venir ronger les particules et ainsi vous permettre de le refaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est combien de fois en général qu'on peut recycler un plastique?
Aujourd'hui, des plastiques recyclés que vous trouvez, les bouteilles recyclées que vous trouvez sont peu recyclables parce que on fait 2-3 recyclages et c'est terminé. Avec notre technologie, on va pouvoir recycler quasiment à l'infini la matière plastique ou la matière textile qui est apportée en déchets.
Technologie régionale en France, vous avez 2 sites à Clermont-Ferrand et à Toulouse.
Absolument.
Historique, c'est
historique. La recherche est née à Toulouse, l'entreprise est née à Clermont-Ferrand et on continue à développer nos 2 sites. Et puis on est en train de monter notre première usine, 50 000 tonnes de déchets dans le nord-est de la France. À côté de la frontière du Luxembourg, en Meurthe-et-Moselle précisément. 50 000 tonnes de déchets, c'est 2 milliards de bouteilles qu'on va pouvoir recycler dans cette usine, ou l'équivalent de 300 millions de t-shirts en polyester.
Et il vous faut des collaborateurs.
Oui, vous êtes une centaine actuellement et vous recrutez une grosse quinzaine de postes. Listez-nous, Emmanuel, les postes les plus urgents avec ce chantier de l'usine qui ouvre.
Alors, on cherche tout type de postes, des ingénieurs procédés, un DRH ou une DRH, bien évidemment, des compétences en production, des conducteurs de ligne. On a vraiment tout type de métiers nécessaires chez Carbios, vu la croissance de l'entreprise.
Oui, c'est difficile de résumer vos métiers, parce qu'entre les gens au bureau, les gens dans les ateliers, les gens au plus proche des déchets, jusqu'aux gens au plus proche du produit fini et recyclé, beaucoup de métiers. Comment s'organise pour conclure vos recrutements entre justement Clermont, Toulouse et la Meurthe-et-Moselle?
On recrute sur les 3 sites. On a déjà recruté 32 personnes depuis le début de l'année et on en cherche actuellement 16 d'ici la fin de l'année. Et puis on va continuer évidemment à grandir en 2023 et en 2024, le gros des recrutements pour notre usine de Meurthe-et-Moselle.
Pour y travailler, c'est quand même des profils bien précis. Vous faites de la formation en interne, c'est pas partout qu'on trouve des spécialistes du recyclage.
Alors on fait beaucoup d'embauches externes, on fait un petit peu de formation. On a vraiment un pôle scientifique sur l'enzymologie qui nous permet de développer de jeunes ingénieurs en recherche ou en biotechnologie. Mais on est aujourd'hui en train de chercher beaucoup de compétences externes.
Allez, la Meurthe-et-Moselle, soyons précis pour ceux qui nous écoutent peut-être localement, c'est Lons-la-Ville précisément où l'usine va ouvrir. C'est quand l'ouverture ?
Alors 2025, le début de la production. Et puis par contre, l'usine va commencer son chantier dès l'année prochaine.
Carbios, comment est-ce qu'on recrute, on postule, Lorraine ?
Alors c'est très simple, vous pouvez écrire aux deux adresses qui s'affichent à l'écran. Il y a celle d'Henri, henricellette@carbios.com. Il y a aussi Ludivine Bonnet à qui vous pouvez écrire. Puis ça se passe évidemment sur le site de Carbios. On n'a pas pu résumer tous les postes qui sont à pourvoir, mais vous l'entendez, c'est un chantier. Et tout ça, c'est aussi des technologies françaises et territoires, et dans nos territoires, comme le rappelait Thomas. Bravo à votre équipe, et puis tenez-nous au courant, et puis venez recruter quand vous continuez à ouvrir des sites.
Merci beaucoup.
Merci. Emmanuel Ladan, directeur général de Carbios, d'être venu dans BFM Business avec vous. Il est midi 55, 60 minutes business s'arrête maintenant. On revient demain, même au même endroit. Avec quoi, Lorraine, BFM Business avec vous ?
Eh bien, figurez-vous que demain, on va continuer cette discussion sur les bureaux qu'on avait à l'instant avec Denis Granger. Zoom sur les nouveaux espaces de travail et le réengagement des collaborateurs au bureau. Voilà le programme demain. Écrivez-nous si vous avez des commentaires ou des réactions à partager avec l'équipe.
Comment attirer de nouveau les salariés en présentiel ? On parlera de tout ça. Midi 56, dans un instant, le replay des experts. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 15h avec Stéphanie Collot. Bonne journée à tous.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.